Vous écoutez Radio Ndekeluka, c'est l'heure de suivre la grande édition avec Karine Esselguégué et Jean-Eudes Bagali. Karine, bonjour.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. À la une mission tripartite Union africaine, Nations unies et Union européenne est en ce moment à Bangui. Ce déplacement de 4 jours vise à évaluer la mise en œuvre de l'accord de Khartoum. Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile dans le collimateur de la justice centrafricaine. Le parquet de Bangui décerne un mandat d'arrêt contre lui. Il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Appel à l'aide des habitants de la commune de Danaïre dans la sous-préfecture de Bozoum. Leur localité manque de postes de santé et d'eau potable. À cela s'ajoute la dégradation avancée de la route. Football ABC Sport Saint-Michel, c'est l'affiche de la Coupe de la cohésion sociale prévue cet après-midi sur le terrain de l'école Koudoukou dans le 3e arrondissement de Bangui. Jean-Eudes Bagali est avec moi au studio pour la présentation de ce journal. Jean-Eudes, bonjour.
Bonjour Karine Stelbegue, bonjour à tous nos auditeurs.
La mise en œuvre de l'accord de Khartoum en évaluation.
Une mission tripartite, Union africaine, Nations unies et Union européenne est arrivée depuis ce matin à Bangui. Objectif évaluer le respect des engagements des uns et des autres.
Igor Deskin Sinapay.
Durant 4 jours, Ismaël Cherghi de l'Union africaine, Jean-Pierre Lacroix de l'ONU et Kwen Varvake de l'Union européenne rencontreront tour à tour les acteurs concernés par cet accord. Après Bangui, ils se rendront également à l'intérieur du pays. Ismaël Cherghi, commissaire paix et sécurité.
Jean-Pierre Lacroix et moi-même donc avons décidé, en étroite coopération avec le gouvernement, de revenir à Bangui dans la suite de l'accord de paix pour continuer nos efforts pour une mise en œuvre effective, sincère, des parties à cet accord, mais également organiser le 17 conjointement avec aussi les partenaires importants et avec le gouvernement, la session du groupe de soutien international à Centrafrique.
Pour les Nations Unies, cet accord est une issue non négligeable de sortie des crises. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.
Aujourd'hui, la violence, c'est la violence contre tout le peuple centrafricain parce que tous ceux qui utilisent la violence en ce moment mettent en péril cet accord qui est la seule chance pour que la paix revienne en République centrafricaine. Évidemment, nous allons aussi nous mobiliser pour lancer cet appel et inciter chacun à prendre ses responsabilités, car le moment vraiment est venu de se tourner vers la mise en œuvre de l'accord, qui est vraiment la chance de retour à la paix.
L'accord de paix négocié à Khartoum et signé le 6 février dernier à Bangui entre le gouvernement et les groupes armés prévoit un calendrier d'évaluation. Les experts internationaux jouent le rôle de veilleur afin de faciliter la mise en œuvre de cet accord.
Merci à vous, Igor Diaz-Kensinapay. Cap sur Bria, dans la Haute-Coteau, le calme est enfin revenu dans le quartier Borno.
Karine Sissi, après des échauffourées hier entre ex-Silika suite à une mésentente née du partage des recettes collectées sur un poste de contrôle.
Selon des sources locales, les activités commerciales ont repris normalement depuis ce matin dans cette partie de la ville de Bria, suivant le témoignage d'un habitant juin par vous, Jean-Eudes.
La ville de Borno est calme. Toutes les activités sont déjà reprises en place. Pas de gravité. Il y a des gens à découvrir et les marchés aussi, ça marche. Et les activités de taxi-moto et tout ça, toutes les activités sont possibles.
Les magasins qui étaient fermés sont ouverts?
Oui, sont ouverts déjà. Si, moi, je suis en train de travailler en couture. Pas de corps armé ici. Il y a tous des civils qui sont là en train de prendre leur activité.
Le parquet de Bangui décerne un mandat d'arrêt contre le porte-parole du groupe de travail de la société civile.
Paul Cresson Beninga est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, conséquence directe de l'appel à manifester contre le manque d'eau potable à Bangui et la nomination des mercenaires étrangers dans le gouvernement.
Éric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui au micro de nos confrères de la radio Centrafrique.
Les déclarations de Paul Cresson Beninga, que nous détenons la copie, c'est-à-dire les preuves, tombe bel et bien sur les préventions des articles 285 et 292 que nous venons de citer, conformément à l'article 26 du Code de procédure pénale centrafricain. J'ai instruit le procureur de la République de déclencher une action publique contre Paul Cresson Beninga et ses complices et les autres commanditaires pour l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur de la République doit me rendre compte au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête afin qu'il soit traduit et ses complices à la plus prochaine session criminelle.
C'était Eric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui. Jean-Eudes, entre-temps, l'Observatoire centrafricain de la consommation a suspendu l'opération dénommée Bidon Jaune qu'il envisage lancer à la fin de cette semaine à Bangui pour protester contre la pénurie d'eau dans le pays.
Pour son président Marcel Mokwapi, cette suspension fait suite à des actions entreprises par le gouvernement, notamment le décaissement de 105 millions de francs CFA pour l'achat de certains matériels pour la Sodeca et la promesse de la construction de 100 forages à Bangui.
Marcel Mokwapi est à votre micro, Jean-Hudes.
Nous avons lancé un ultimatum, on dit que jusqu'à la fin de cette semaine, on n'a pas eu une réponse rassurante du gouvernement, on va acter notre journée opération bidon jaune. Mais les réponses, c'est quoi? Qui sont, je dirais, partiellement rassurantes. D'abord, le Premier ministre et les ministres sont allés visiter Sodeca. Ils ont reçu les urgences de la Sodeca. Ils ont décaissé 105 millions à la Sodeca pour acheter deux électropompes, pour renforcer la capacité, justement, de la station de captage d'eau. Ils vont draguer au niveau de la cette station, justement, pour que quand, pendant la saison sèche, l'eau ne tarisse pas, qui est toujours de l'eau. Et l'autre réponse, entre autres, rassurante, c'est quoi? Par rapport à une recommandation forte qu'on a posée, c'est qu'il faut lancer un programme, un vaste programme de forage d'eau. Et le ministre nous a rassuré qu'il y a déjà disponibilité financière pour faire 100 forages dans Bangui actuellement. C'est la première étape. L'UNICEF même déjà, en tant qu'institution des Nations Unies dans ce domaine de l'enfance, apporte son concours. C'est un peu rassurant. Et on va mettre la pression avec vous tous pour que des 100 forages qu'on passe à 200 à 300.
Marcel Mokwapi, président de l'Observatoire centrafricain de la consommation. Direction la sous-préfecture de Bozoum avec cette plainte des habitants de la commune de Danaïre.
Ils déplorent l'absence des postes de santé, le manque d'eau potable et la dégradation avancée des voies routières qui mènent dans leur village. Ils appellent à l'aide.
Correspondance de Roc Romial Iamboundé.
La commune Danaïre est située sur la route de Bozoum-Bokaranga. Pour accéder au village longeant cet axe, il faut aller au-delà de plus de 40 km. Les pistes qui y mènent sont impraticables. Depuis Sangbaï, Ndonga, Aï, Warabara, en passant par Son, Kayanga et Bokpanya, il n'y a que deux postes de santé. Ces villages sont distants l'un de l'autre de 13 à 15 km. Les malades doivent parcourir plus de 60 km pour atteindre un centre de santé digne de ce nom. Parfois, le patient meurt en cours de route à cause de la dégradation avancée des pistes. Ajouté à ces difficultés, le manque d'eau potable. La plupart des habitants consomment l'eau de source et des puits non traités, souvent à l'origine de plusieurs maladies telles que la diarrhée, la fièvre typhoïde. Face à ce problème, les habitants de la commune d'Anaïre appellent le gouvernement, les ONG et les personnes de bonne volonté à l'aide.
Retour ici à Bangui où deux présumés fabricants de faux ciments sont arrêtés vendredi par la Compagnie nationale de sécurité.
Ils ont été capturés au marché central après avoir vendu 6 sacs de faux ciments à la population. Selon le colonel Sim Joaki Dani Goumadi, directeur de la CNES, les auteurs de cette pratique vont être traduits devant la justice pour répondre de leurs actes.
Sim Joaki Dani Goumadi avec Igor Teskin Sinapai.
Un centrafricain qui est dans le besoin de faire une construction. Donc, par rapport à la pénurie que vous connaissez, ce centrafricain est obligé de se rapprocher d'un groupe de jeunes qui vendent les ciments. Et à sa surprise, c'est des faux ciments que ces messieurs-là sont en train de vendre, donc il y a une importante quantité. Donc, lui, il a pris seulement 6 sacs de ciment. Et faisant chemin, il voulait juste toucher pour voir si effectivement le contenu c'est du ciment. Il s'est rendu compte que c'est pas du ciment qui est à l'intérieur de ces 6 sacs là. Et automatiquement, comme l'argent qu'il a remis à ses malfrats, il y a un billet d'euros. Donc ils ont profité de ça pour aller à la station Relais-Sika pour échanger. Et c'est de là où il a pu les remarquer et puis faire appel à la police. Et nous avons intervenu à temps pour mettre la main sur eux. Je pense que nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes des auxiliaires de justice. Ces gens-là seront présentés avec ces preuves-là au niveau du parquet et c'est au parquet de décider sur leur sort.
Et puis, développer le leadership décisionnel et financier, c'est le thème de la 7e édition d'une formation top niveau organisée par l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et de l'emploi, ACFPE, à Bangui.
Ils étaient 20 au cadre des sociétés privées et parapubliques à échanger du 9 au 11 avril sur les enjeux de la gestion financière et des ressources humaines. Le but est de les amener à réformer leur système de gestion en vue d'améliorer la prestation au sein de leurs entreprises.
Actualité au Soudan, le nouvel homme fort du pays promet la rupture avec le régime d'Omar el-Béchir.
Après sa nomination à la tête du conseil militaire chargé de la transition, Abdel Fattah Abdarrahman Bourhan a promis d'ouvrir une enquête, un dialogue, j'allais dire, avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan.
La première rencontre a eu lieu hier entre l'opposition, l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation et les militaires. Les participants ont proposé qu'il y ait un conseil civil qui travaille en parallèle du conseil militaire, explique Sarah Abdelgalil, le porte-parole de l'association des professionnels soudanais à Londres. Et puis le chef d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahéliens, regroupant 24 pays, se sont réunis hier à N'Djamena au Tchad.
Les États membres ont appelé à une transition pacifique au Soudan. La crise en Libye a également été abordée. La CENSAD appelle les protagonistes du conflit à observer le cessez-le-feu immédiat et à relancer le dialogue.
Et maintenant, la page sport. C'est avec vous, Henri Juvenal, Kouéré PD, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Commençons par le football. La finale de la Coupe de la Cohésion Sociale se joue cet après-midi dans le 3e arrondissement de Bangui.
Elle opposera à partir de 15h ABC Sport à Saint-Michel sur le terrain de l'école Kodoukou. Ce tournoi est une initiative de Abderrahmane Ali, le président de la Soulique de Kodoukou. Les temps forts de cette finale à suivre en direct sur Radio Ndekeluka.
Et puis fin ce dimanche de la 6e journée du championnat de la Ligue de Bangui en première division.
À partir de 14h au stade de Barthélémy Bouganda, Castelfoot reçoit le Diplomate Football Club du 8e arrondissement, suivi du derby opposant Aïs Tempête Moukaf aux Anges de Fatima.
Football encore, la finale de la Coupe de la Cohésion Sociale a été remportée hier par le 4e arrondissement sur le 3e arrondissement.
Victoire 2-0. La rencontre s'est jouée au terrain Atemi à 6-2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Régis Lionel Dunda, salue cette initiative.
Le 3e arrondissement et le 4e arrondissement se sont affrontés dans un match de football dont les joueurs sont des jeunes ou le plus âgé à moins de 30 ans et le moins âgé que moi j'ai remarqué à peu près 15 ans. Ça, c'est quelque chose. Cela veut dire que cette cohésion sociale est là, elle est en marche. Voilà mon impression.
Du côté des organisateurs, leur objectif est atteint et l'initiative a du chemin à faire. Hugo Bob Mokalo, président des Forces Unies de la Jeunesse de Centrafrique, s'en félicite.
Ravi avec mon équipe, le bureau qui a fait un travail formidable. Ravi avec des partenaires sur place qui ont pu participer à l'élaboration et à la réussite de cette finale. Et ravi également des deux équipes parce que j'ai senti un esprit de fair play puisque l'idée de ce match, c'était de rapprocher davantage nos jeunes centrafricains, compatriotes, chrétiens, musulmans.
Ces propos ont été recueillis par vos juvéniles. Le football toujours démarre ce jour de la CAN U17 en Tanzanie.
Du 14 au 28 avril, les jeunes de moins de 17 ans vont s'affronter pour le titre de champion d'Afrique. 4 places sont en jeu pour la Coupe du Monde de moins de 17 ans au Brésil. À suivre la situation du championnat des jeunes à Bangui dans notre émission Sport et Musique de cet après-midi à partir de 15h05. Les invités sont Clément Dombé et Albert Niwa, responsables de la commission des jeunes. Les jeunes footballeurs et un support seront aussi de la partie.
Changeant de discipline juvénile en handball, la présélection dames continue de se préparer au Palais des Sports à Bangui.
Elle se prépare pour le Challenge Trophy des dames prévu en République démocratique du Congo du 22 au 26 mai de cette année. Après un mois de préparation, ces fauves dames livreront un premier match test le samedi prochain.
Un délai dans le Bamingui Bangoran, c'est la 4e journée du championnat aller de basketball qui se poursuit.
Red Star et Puissance disputeront la manche, suivie à 17h de l'explication entre Excellence et Diamant Vert.
Merci Juvenal et voilà tout pour la partie française de cette édition. Merci à vous de l'avoir écouté. Gardez l'écoute pour la version en langue nationale après la revue à l'international présentée par Stéphane Andjouyou.
La revue du site de Radio Ndekeluka.
Le président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est montré optimiste depuis Washington quant à la réussite de l'accord de paix signé en février avec des groupes armés.
En visite dans la capitale américaine et selon Agence France Presse, le chef de l'État centrafricain a souligné mardi 9 avril que l'accord, le 8e signé depuis le début de la crise, marqué par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé, comportait des mesures sur des sujets cruciaux comme le partage du pouvoir.
Restons aux États-Unis pour dire que le Conseil de sécurité va réexaminer les mesures d'embargo sur les armes.
Dans une déclaration rendue publique par la présidence de l'instance de l'ONU, occupée actuellement par l'Allemagne, les membres du Conseil se sont dit le 9 avril, disposé à réévaluer les dispositions liées au blocus imposé au gouvernement centrafricain pour éventuellement les suspendre ou les lever progressivement. Le Conseil a salué les efforts considérables accomplis par les autorités centrafricaines en coordination avec les partenaires internationaux pour faire progresser la réforme du secteur de la sécurité. Ses membres se sont par ailleurs félicités de la signature le 6 février dernier à Bangui de l'accord de paix entre le gouvernement et les 14 groupes armés.
La MINUSCA, dans une note, fait mention du retour progressif de l'autorité de l'État à Bangassou, un retour salué par les autorités locales.
Oui, Marcel, un an après la signature de l'accord de paix entre les communautés de Bangassou, document signé le 9 avril 2018, les activités administratives et socio-économiques ont repris dans la ville, a affirmé la préfète Djumbumu, Pierrette Benguéré. Elle a annoncé également le retour de plusieurs déplacés internes dans leur localité d'origine, comme Gambo, Pombolo et Bakouma.
Le Premier ministre a visité les combattants du FDPC pris en otage après l'attaque de Zoukombo.
Firmin Grébada fait du dossier des rebelles du FDPC une affaire personnelle, titre African Daily Voice en ligne. Le Premier ministre a instruit les services judiciaires d'accélérer la procédure de traduction devant les tribunaux des éléments rebelles du Front démocratique du peuple centrafricain FDPC, dirigé par Martin Koumtamadji, alias Abdoulaye Miskine, ayant longtemps occasionné un blocus sur le corridor Bangui-Garambulaï et capturé par les forces armées centrafricaines. Ces rebelles capturés sont déférés dans la capitale centrafricaine à la section des recherches et d'investigation.
African Daily Voice mentionne que la RCA a reçu 45 millions de dollars de la Banque mondiale pour la construction d'un champ solaire.
Selon nos confrères, le gouvernement centrafricain, représenté par les ministres de l'économie du plan Félix Moloua et celui des finances et du budget Henri Maridondra et la Banque mondiale ont signé à Washington un accord où la question de l'énergie est placée au centre des préoccupations pour l'année 2019. Le gouvernement entend ainsi augmenter de 25 mégawatts la capacité en énergie afin de booster l'économie conformément au pilier 3 du plan national de relèvement et de consolidation de la paix, RCPCA. Le démarrage des travaux est prévu pour le mois d'août 2019.